Salut tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode de Call Interview et cette fois j'ai un monsieur de la Ligue 1, vous l'avez réclamé, il est avec moi, Chris, le Lyonnais, monsieur le policier, est chez nous. Alors comment ça va Chris, tout va bien?
Écoute, ça va super bien, donc c'est un plaisir, un grand plaisir de pouvoir discuter, pouvoir échanger avec toi. Je te suis sur les réseaux sociaux, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là.
Bon, c'est gentil. Je suis suivi par Chris, Monsieur Chris. C'est bon, là, j'ai le melon pour la fin de l'année. Non. C'est gentil. Avant d'en arriver où tu es aujourd'hui, il y a une grosse histoire. Et ici, dans Call Interview, j'adore les débriefer. Donc, la meilleure personne pour me parler de toi, bah, c'est toi. Alors, on va reparler de la vie avant l'OL, avant la France, avant même le foot au Brésil. Dis-moi un peu, dans quel cadre t'évolues, toi? Dans quel genre de famille tu nais? Comment ça se passait pour toi au Brésil?
Moi, j'ai eu une vie tranquille. Ouais. Mon père, il bossait 24 heures sur 24. Ma maman a travaillé à la maison. Voilà, mon père, il a tout donné pour qu'on ait une vie assez sympa. On n'était pas riche, on n'était pas pauvre non plus. J'ai un frère plus âgé que moi. Mm-hmm. C'est mon père qui nous a éduqués comme il faut. J'ai dit toujours que j'ai vécu dans un quartier que c'était pas très loin des favelas. Heureusement que mon père, il était assez dur parce que aujourd'hui, quand je vois mes amis, où ils sont dans la prison, où ils sont morts. Ouais. Voilà, c'était un peu chaud. Donc, le foot m'a aidé aussi avoir une autre vision. Voilà, si aujourd'hui j'ai réussi dans le foot, c'est grâce à mes parents.
Le foot, il vient naturellement pour toi. C'est un amour personnel et une envie personnelle ou c'est ton père qui t'y met un petit peu parce qu'il te faut une activité, tu sais?
En fait, mon père, il était joueur de foot amateur. Il était attaquant.
D'accord.
Mon frère, il avait un talent énorme. Il était défenseur aussi. Mais malheureusement, il n'a pas pu jouer au haut niveau. Mais il avait un talent. Et moi, j'ai joué au quartier, j'ai joué dans la rue avec mes copains, tout ça. Mais je n'étais pas vraiment un fan de foot. Et mon père, voilà, c'est lui qui m'a poussé. D'accord. Et petit à petit, voilà, il a vu que les choses marchaient super bien. Mais par exemple, la première fois, j'avais 7 ans. Il m'amène au foot. OK, j'arrive. J'ai dit, papa, mais je fais quoi? J'étais assez grand par rapport aux autres. Il m'a dit, tu vas être défenseur. J'ai dit, papa, mais le défenseur, il fait quoi? Il m'a dit, la cage, il a le gardien, donc tu dois le protéger. D'accord. Donc, dès que le ballon il vient, tu le dégages.
OK.
Donc, voilà, c'est tout. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé la rigolade, les week-ends, en train de jouer avec les copains, tout ça. Ouais. Ça a pris forme. Quand j'avais 11 ans, je suis parti dans un centre de formation à Corinthians. Et là, c'était plus sérieux. Il y a 17 ans, je signe mon premier contrat pro.
Ça va vite quand même. Ça va vite.
Ah, ça va vite.
OK. Bon, Cruzeiro, comment ça se passe? Parce qu'il y a l'acclimatation, mais tu restes quand même. Tu ne pars pas à l'autre bout du pays, tu ne pars pas, il n'y a pas un dépaysement total. Tu as tes bases, mais tu changes de club quand même. Donc, est-ce que, parce qu'à travers les statistiques, on a l'impression qu'il n'y a pas de temps d'adaptation, tu sais, que tout roule direct, que tout va bien. Toi, réellement, dans le vécu, c'est comme ça que tu le vis aussi ou pas?
Oui, un peu. J'étais très bien reçu par Cruzeiro. C'est un club qui a l'adaptation, c'était rapide. Au début, je n'étais pas vraiment titulaire. Voilà, il avait 3-4 défenseurs qui ont changé. Mais au bout d'un moment, voilà, j'ai joué tout le temps. Mais c'est très intéressant parce que quand j'arrive à Cruzeiro, c'est différent de Corinthians. Corinthians, c'était l'agressivité. Il n'avait pas de ballon perdu. Il fallait montrer au caractère. Mentalement, il faut être fort. Cruzeiro aussi, mais c'était une équipe qui avait un coach qui aimait jouer. Et quand j'arrive à Cruzeiro, le ballon il venait, bah, comme mon père disait, dégage, pas de risque derrière. Et à l'époque, il avait Marcelo Quirimidian, l'agent qui amenait les Brésiliens à Lyon. Mm-hmm. Il me dit, Chris, fais attention, le coach il n'aime pas ça. Il veut jouer, les défenseurs doivent jouer. Je dis, ah d'accord, ok. Donc là, je dois changer mon style de jeu. Donc ça a pris un peu de temps, ça a pris 3 mois, 4 mois. Mais après, voilà, ça marchait naturellement.
Il y a une première expérience, et ça, je t'avoue que n'étant pas à la base un supporter lyonnais qui s'est plongé dans ton histoire à ton arrivée en France, déjà parce que j'étais plus jeune, mais aussi parce que je n'avais pas cette proximité avec l'OL, j'ai appris par ces recherches-là comment s'était passé à travers les stats ton passage en Europe, ton premier passage en Europe.
À Leverkusen,
en Allemagne. Parce que tu m'as parlé déjà du premier contact avec Marcelo, qui envoyait les jeunes beaucoup à Lyon notamment. Ouais. Alors, comment l'hypothèse et la possibilité Leverkusen s'est dessinée?
En fait, il avait Lucho à Leverkusen. Mm-hmm. Et lui, il casse le pied, il se blesse au mois de décembre. Mm-hmm. Il n'allait pas jouer pendant 4 mois. Ils avaient besoin d'un défenseur. Voilà, mon nom est sorti. Ils viennent à Cruzeiro, à Belo Horizonte. On discute. On a fait un prêt de 6 mois. Avec une option d'achat de 3 ans. Mm-hmm. C'était ma première expérience. J'ai dit, nickel, magnifique, je vais en Europe. Je vais jouer la Coupe d'Europe parce que Leverkusen jouait la Coupe d'Europe. Parfait, il avait des Brésiliens. Il avait Juan qui a joué à Roma, qui était là-bas. OK, c'est bien. Sauf, je quitte le Brésil. Il avait 35 degrés. J'arrive à Leverkusen, moins 10. C'était tout blanc, tout blanc. La porte de l'aéroport s'ouvre. Oh là là, mon Dieu. Donc, je vais m'entraîner. Je pensais que j'allais mourir. Je ne savais pas m'habiller. Qu'est-ce que j'allais mettre? Des gants, des bonnets, Non, je ne savais pas. C'était une expérience très, très difficile. Et en fait, avec la langue, c'était très compliqué. Il n'avait pas une personne à Leverkusen pour nous aider. C'était très, très dur. Au bout de 5 mois, je voulais rentrer. J'avais un contrat avec Cruzeiro encore. Oui. Je voulais rentrer.
Est-ce que quand on vit une expérience négative comme celle que tu me décris là, parce que du coup, même s'il y a de l'apprentissage, c'est négatif le ressenti, on se dit, c'est pas grave, je reviendrai plus tard?
Pas du tout.
C'était le Brésil et puis c'est tout, quoi.
Non. C'est pas que moi, je voulais pas revenir en France. Les stats, on va dire, à l'époque, si le joueur, il part en Europe et ça marche pas, il rentre au Brésil, mm-hmm. il ressort pas. Oui. Et à l'époque, c'était les stats. Aujourd'hui, c'est plus facile. Hein, si tu marches pas en Angleterre, tu peux aller en Italie, tu peux aller en Espagne, tu peux aller en France. À l'époque, non. À l'époque, c'est ça que dans ma tête, c'était ça. Voilà, c'était compliqué. Maintenant, je rentre au Brésil, je vais finir ma carrière au Brésil.
Et pourtant, ça revient. Et encore une fois, tu reviens à Cruzeiro. On a l'impression que tu n'es pas parti. Tu reprends tes habitudes. Ça se passe bien. Comment ça se dessine, Lyon? C'est via Marcelo?
Après Leverkusen, je rentre au Brésil. Je joue avec Cruzeiro. Je gagne le championnat brésilien. Mm-hmm. Je gagne, ça c'était au mois de 2003. Mm-hmm. J'étais en équipe nationale. Mm-hmm. Et un jour, il avait un match Corinthians et Cruzeiro. Et Bernard Lacombe était présent avec Marcelo. D'accord. Sauf qu'ils sont allés voir le défenseur de Corinthians, okay. qui à l'époque c'était Kleber Anderson, qui a joué à Lyon après. Mm-hmm. Et ce match-là, je pense que j'ai bien joué. Et Bernard Lacombe, il parle à Marcelo. Comment s'appelle le défenseur? Et Marcelo, il dit, Kleber Anderson. Non, Marcelo, je parle de Cruzeiro. Et là, Marcelo, il raconte ses crises, il est en équipe nationale, il a joué à Leverkusen, il a joué à Corinthians, tout raconté. Et à ce moment, Bernard Lacombe, il voulait me rencontrer.
Ouais. Et vous dites quoi alors? C'est un gros pari quand même, quand il sait qu'il y a eu un premier échec en Europe.
À ce moment, Marcelo, il m'appelle en disant, est-ce que demain, tu es libre pour manger avec une amie à moi? Pas de souci, je connaissais Marcelo super bien parce qu'on a joué ensemble. Et quand j'arrive au resto, il avait Bernard Lacombe. Donc, je ne parlais pas français, je ne parlais rien. C'est Marcelo qui traduisait tout ça. Et là, on a commencé à parler, à discuter. Et Bernard, et à l'époque, il me dit, mais tu viens avec moi. Je dis, mais comment? Non, je te veux. Donc, tu viens en Lyon. Écoute, laisse-moi réfléchir quand même. Laisse-moi parler avec ma femme. Ils voient qu'est-ce qui va se passer. Mais à l'intérieur, j'étais content. Parce qu'ils sont allés chercher un défenseur pour remplacer Dimison, qui est parti à Barcelone. À ce moment, je n'ai pas hésité. Donc, déjà, il avait un contrat, 3 ans. c'était pas un prêt. Donc là, c'est rassurant. Et quand j'arrive au vestiaire, bah, on sent l'atmosphère. On sent l'atmosphère. Et à ce moment, j'arrive, Mamadou Dila, il me voit la première chose devant tout le monde et dit « Oh, Casa Pablo !» Donc là, tout le monde commençait à rigoler, tout ça. Il est joyeux, il faisait des efforts pour parler un peu brésilien, pour faire des gestes. Ah là, tu te sens super bien après dans le vestiaire. L'adaptation, c'était énorme, c'était rapide.
Bon, parlons d'adaptation, parce que là, on parle d'en dehors du terrain. Mais sur le terrain, si je ne dis pas de bêtises, premier entraîneur, Paul Le Guen.
Ouais.
45 matchs joués.
Ouais.
Ça va comme adaptation. Tu sors d'une Copa América avec la sélection, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
Donc, tu as le vent en poupe. Contrat de 3 ans, donc ça, encore une fois, dans les conditions, rien à voir avec la première expérience. Bon accueil. Il ne fait pas moins 10. À Lyon, il fait un peu plus chaud qu'à Leverkusen quand même. Ouais. Donc, ça aide aussi. Et bref, bonne atmosphère. 45 matchs, Chris, d'entrée pour un Brésilien qui découvre vraiment l'Europe. C'est ta vraie découverte de l'Europe, là, parce que tu joues beaucoup de matchs. On fait appel à toi très souvent. La compréhension avec Paul Le Guen, elle est comme ça, directement ?
Tout de suite. Déjà, pour comparer Leverkusen et Lyon, bah déjà, j'arrive à Lyon au mois d'août. Ouais. Donc, j'arrive l'été. Le froid, il arrive doucement. Donc, j'ai le temps de m'adapter par rapport à ça. Après, avec le coach Paul, bah, tout de suite, il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance tout de suite. Il a appelé Juninho pour parler avec moi, pour traduire qu'est-ce qu'il voulait vraiment. Et mon premier match à Lyon, au championnat, c'était contre Lille, à Gerland. Mmh. Et quand je touche mon premier ballon, tous les supporters ont crié, ils ont applaudi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai dit à Cassapa, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pour bienvenue. Je dis, ah bon? Ah, merci. C'est gentil. Donc, l'accueil, elle est magnifique. Et après, mon 12e match, c'est Coupe d'Europe contre Manchester United. Et là, je marque mon premier but. Donc, voilà, cette confiance que le coach m'a transmise, j'ai essayé de donner sur le terrain. Parce qu'il est rapide, mais ils m'ont comparé avec Edmilson. J'ai dit, les gars, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas faire petit pont dans la surface. Je vais pas... Non, parce qu'Edmilson, quand on voit jouer, il n'avait pas d'émotion. Le mec, il jouait tranquille. Et moi, non, moi, c'est agressif, moi, c'est duel, j'aime les duels. C'est comme ça, je ne vais pas faire des transversales de 30 mètres, 20 mètres. Moi, je vais récupérer et je vais donner à Juninho, je vais récupérer, je vais donner à Michael Essien. C'est à eux de faire le jeu, ce n'est pas moi. Ouais. Donc, c'était comme ça. Quand j'arrive à Lyon, on recevait le calendrier de championnat. La discussion dans le vestiaire, c'était bah, « on va être champion ici ». Je dis, mais les gars, c'est 38 journées quand même. Non, mais on va être champion en 32. Et en fait, ils avaient cette habitude. C'est ça qui faisait la différence. C'est que tout le monde parlait le même langage.
Est-ce que de par tout ça, cette première saison à Lyon, c'est la plus importante? Le titre gagné, tout ça, c'est la plus importante?
Oui, c'est la saison de confirmation en Europe. Et après, je vais plus loin. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais avant de venir en Europe, pour la deuxième fois en France, j'avais une suspension de 6 mois au Brésil.
Ah non, je ne suis pas au courant de ça.
Tu n'as pas vraiment cherché. Hein.
Pourquoi tu es suspendu?
Il avait le derby, Cruzeiro et Atlético Mineiro.
Ouais.
C'était la finale de la Coupe régionale. Donc, il avait deux matchs, le match aller et le match retour. Premier match, on gagne 3-1. Deuxième match, on perd 1-0. Mais on est champion. Sauf qu'il a toujours la provocation, la semaine, tout ça. Et le gardien de l'équipe adverse, d'Atlético, il nous a provoqué toute la semaine. Mmh. Et nous, on n'a rien parlé, on n'a rien dit. On gagne. Et moi, je vais fêter. Je vais fêter, je cours. Et au milieu de la division des supporters, bah, je fête.
Ouais.
Je vais provoquer l'équipe, les supporters un peu adverses, mais je vais fêter avec mes supporters, donc j'étais au milieu.
D'accord.
Et à ce moment, je vois le gardien qui vient et qui me rattrape derrière.
Ouais.
Ah bah là, c'était une grosse bagarre. J'ai pris 6 mois de suspension. Et c'est ça qu'à un moment donné, ça a bloqué ma venue à Lyon. Dans la discussion, parce que Bernard Lacombe, il me voulait. Le président, il a pris des infos, Jean-Michel Aulas a pris des infos en disant « Non, Chris, il prend beaucoup de cartons et facilement, on ne peut pas avoir un joueur comme ça, tout ça. » Et Bernard, à l'époque, il dit « Chris, il vient. Si Chris, il ne vient pas, moi, je ne travaille plus pour le club. »
Donc, ah oui, il y a cette prise de position-là pour te faire venir.
Bah, Bernard, oui.
Ah oui.
C'est pour ça que je l'appelle papy.
Ah ouais. Ah ouais, il est important dans ta carrière.
Hein. Ouais. Il a assumé, non, je veux le joueur. D'accord. Je veux la personne. Il rentre avec moi à Lyon. Mmh. Il est assumé.
Et derrière, quand tu es arrivé, une fois que c'est fait, il y a toujours cette proximité entre vous deux.
Toujours.
Ouais.
Même aujourd'hui, je ne sais pas comment le remercier. Donc, mais c'est une personne, comme tu dis, il m'a beaucoup aidé. Toutes les semaines, il m'a appelé pour discuter. Il me donnait les conseils. Donc, ah oui, Bernard, toujours important dans ma carrière ici à Lyon.
Tu évolues à Lyon. Tu fais, tu connais, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, 5 coachs.
Ah, les questions pièges, là.
Je t'ai dit que j'avais très arrêté des surprises. Tu m'as chahuté, là. Tu m'as chahuté en disant que j'ai ma question, on va voir.
Je sais qu'il m'attend déjà. Hein.
Avec l'OL, tu fais 4 titres de champion de France. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Donc, bravo, monsieur, déjà, avant de continuer.
Merci.
Il y a une saison où moi, en tant que justement fan de foot, mais pas supporter de l'OL, de l'extérieur, sur la saison 2007-2008, sous Alain Perrin, il y a le titre qui est là, mais c'est une saison plus compliquée. Avant de partir dans l'après-titre, au niveau des points, vous avez, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, 4 points d'avance sur Bordeaux. Toi qui es dedans et qui a connu 3 titres avant, comment cette saison-là, elle est différente des autres déjà?
Bah, pour moi, c'était vraiment différente parce que j'ai eu une grave blessure déjà au début de saison, 2007.
Ouais.
J'ai eu le croisé.
37 matchs en tout avec l'OL.
Donc, c'était très compliqué. Après l'arrivée d'Alain Perrin, bah, il avait beaucoup de changements. Beaucoup de joueurs importants qui sont partis. Bah, il avait des joueurs intéressants de qualité qui sont arrivés. Mais à un moment donné, la mayonnaise n'a pas pris. Mmh. Donc, c'était compliqué. Donc, on part.
Je sens que ça va picoter un petit peu.
Non, c'est marrant parce qu'on part en stage. Il y a Bodmer, il vient de Lille, il arrive de Lille. Il y a aux entraînements, à un moment donné, Alain Perrin dit à Bodmer, va tirer le corner. Et Bodmer, il venait de marquer je ne sais pas combien de buts de la tête avec Lille. Et nous, on se disait, mais coach, Bodmer, il est dans axe, il ne peut pas tirer. Et en plus, il ne savait pas tirer, il savait pas, il n'avait pas l'habitude. Mm-hmm. Mais en fait, le coach, Alain Perrin, il était tellement concentré à ça, et à un moment donné, il nous a engueulé en disant, non, c'est lui qui va tirer. OK, c'est lui qui va tirer. Donc, et là, ça commence déjà des choses. Mm. Greg aussi, il a pris la tête avec Alain Perrin par rapport aux séances, par rapport à plusieurs choses. Moi, j'ai eu un petit problème avec Alain Perrin aussi au niveau des jouets côté droite et côté gauche parce qu'il voulait faire une défense, moi et Bodmer. Déjà, Bodmer et Mathieu, ils n'aimaient pas jouer défenseur.
Ouais.
C'était un milieu. Et moi, je ne voulais pas jouer à gauche, je voulais jouer à droite. Mais Mathieu, il était d'accord de jouer à gauche. Mais Alain Perrin, il ne voulait pas. Et là, j'étais énervé. Et en fait, quand je me blesse à Toulouse, c'était ça la discussion à la mi-temps.
D'accord.
D'échanger des places avec Mathieu, Bodmer, et qu'il ne voulait pas. Et à un moment donné, il dit, ah, faites comme vous voulez. C'était chaud, c'était tendu dans le vestiaire. Et je passe à côté droite. Ah, premier ballon, croisé.
Ouais.
Oui, là, c'est parti. Déjà, il avait le choix de capitaine.
Bah, dis-moi.
Alain Perrin, il arrive avec Christophe Galtier.
Oui.
Il avait le choix de capitaine. Il avait Coupé, il avait Juninho, et il avait moi. Et là, Alain Perrin, il fait le choix de travailler avec une autre méthode en disant, c'est à vous de choisir le capitaine.
OK.
Nous joueurs. Donc, pour moi, ou c'était Greg, ou c'était Govou, ou c'était Juninho. Je ne sais pas qui il était. Il avait encore 2 joueurs dans la salle, mais je ne sais pas qui. Et là, je me suis dit, OK, tranquille, bah, je vais voter un des trois. Et c'est bon. Et là, je vois que tout le monde vote moi. Et comment on se dit, non, Chris, j'ai dit, les gars, attendez, moi, je parle pas français comme vous. Je suis pas là, moi, je suis leader, mais voilà, je suis leader, j'ai pas besoin de brassard. C'est à vous. Vous avez plus de titres, plus de matchs, plus de temps de clubs que moi. Donc, c'est à vous. Greg, Govou, Juninho. Et Greg, il disait, non, on va t'aider, t'inquiète, on va t'aider. Aujourd'hui, t'es le joueur pour être capitaine. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Donc, c'est une méthode qui, moi, j'ai pas aimé. Mm-hmm. Ça met porte-à-faux avec les autres. J'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai accepté. Il y a ces moments, je me blesse. C'était la troisième journée, je crois, c'est la quatrième journée de championnat.
C'était très tôt dans la saison, ouais.
Ouais, c'était très tôt. Je fais la rééducation, tout ça, je pars au Brésil. Et c'est Juninho qui prend le brassard. Dans mon retour, Alain Perrin, il vient, il convoque moi et Juninho en disant, voilà, Chris, tu étais choisi pour être le capitaine au début de saison. Mais là, je vais laisser Juninho comme capitaine. J'ai dit, coach, c'est parfait pour moi. Juninho est dans la capacité d'être capitaine. Laisse Juninho, pas de problème. Hey, mais par contre, tu vas être le 12e. OK, j'accepte, mais laisse Juninho être capitaine. Donc, voilà, le brassard, c'était comme ça.
Pourquoi tu dis, parce que tu dis que tu n'as pas aimé. Mais qu'est-ce qui te fait le plus peur dans cette tâche-là, à ce moment-là?
Ce n'est pas que je n'ai pas aimé. C'était le respect par rapport aux autres. Par rapport à l'histoire de Govou, par exemple.
Ah, d'accord.
Par rapport à l'histoire de Greg. Mm. Par rapport à l'histoire de Juninho. Mm-hmm. D'accord. Les mecs, ils ont été devant moi. Mais on avait une belle équipe. Et on a fait le doublé.
Ouais. Ouais. Il y a eu beaucoup de critiques quand même sur lui. Est-ce que vous trouviez ça injuste?
Des fois injuste, oui. Des fois injuste. Parce que Alain Perrin, ce n'était pas le meilleur coach que j'ai eu. Mais il avait des bonnes idées. Après, il avait Christophe Galtier comme adjoint. Hein? On sentait déjà. C'était l'adjoint qui communiquait, l'adjoint qui animait les séances, qui était à l'aise avec nous, qui nous amenait à être au haut niveau. Moi, à mon avis, c'est ça qui a fait la différence pour Alain Perrin et pour nous, d'avoir un adjoint comme Christophe Galtier.
Bon, cette saison, elle était compliquée à analyser. Mais dans le compliqué à analyser à Lyon, il y a la championne. On va mettre les pieds dans le plat parce que c'est tellement difficile la Ligue des Champions à gagner. Le Paris Saint-Germain peut en parler. Il y en a plein d'autres qui peuvent en parler, mais bref. Est-ce que toi aussi, tu as ressenti maintenant avec le recul, tu ressens encore que ce plafond de verre qui vous a beaucoup, beaucoup gêné sur ces quarts de finale. Et on l'a ressenti aussi avec le Paris Saint-Germain après. Hein. Mais vous, pour votre période à vous, c'est dans la tête que ça se joue ou pas?
Oui, ça joue, mais je vais dire une chose qui peut-être je vais être, les gens vont me critiquer, hein, mais je crois que mais je pense que c'est la réalité. Le niveau de championnat français, c'est pas le niveau de championnat anglais, c'est pas le niveau de championnat à l'époque italien. Ouais. On savait qu'au championnat on allait gagner. C'est comme Paris aujourd'hui, ils savent que le championnat c'est bloqué, c'est fait. Peut-être une fois qu'ils vont perdre, comme ils ont perdu que Lille était champion, que Monaco était champion, ça arrive de temps en temps. Mm-hmm. Mais quand tu joues un match le vendredi, tu sais que tu vas gagner, il n'y a pas de pression, tu peux mettre une équipe pas l'équipe type, mais tu peux faire le changement. Et le mardi ou mercredi, tu vas jouer une Coupe d'Europe assez difficile, c'est pas le même niveau. Il a le mental, oui, il a le mental, mais fallait avoir des matchs plus difficiles, plus compliqués. Donc moi je pense que les équipes adverses, elles étaient plus prêtes à jouer un match de Coupe d'Europe que nous. Nous, il fallait toujours faire plus.
Avant qu'on continue ce débat, sache que je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. Le contre-exemple de ce que j'entends tout le temps, et c'est auquel je n'arrive jamais à répondre, parce qu'au départ, je suis comme toi, je me dis, le championnat français, il n'était pas assez relevé pour que Lyon soit habitué à lutter dans l'adversité, comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui, même s'ils perdent des matchs. Mais quand tu regardes le FC Barcelone et le Real Madrid, par exemple, qui dominent, à part ces deux-là, ils dominaient très régulièrement leur championnat, ils étaient deux. Ouais. Pourquoi est-ce que pour eux, c'est plus régulier d'atteindre le dernier carré, d'atteindre la finale, de gagner, alors que en termes d'adversité, à la fin, on pouvait écrire dès la première journée de championnat Real Madrid ou FC Barcelone. Donc, en soi, à part pour le Classico, ils avaient la même adversité que vous presque. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cette limite-là?
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est un autre point, c'est très important, c'est l'histoire.
D'accord.
On va jouer à Madrid, contre Real Madrid, tu sens tout de suite l'atmosphère. Ah bah là, si on ne fait pas des efforts ensemble, si on ne travaille pas ensemble, ça va être compliqué.
Ouais.
Je peux te dire ça parce que j'ai vécu ça plusieurs fois avec Madrid, avec Real. Mmh. On a joué plusieurs fois et chaque fois qu'on jouait contre eux, ah bah la concentration, c'était plus de 100%. Hein.
Ouais.
Et après, il a l'histoire de maillot.
C'est important ça, dans le foot, c'est vraiment important.
Ah ouais. Pour moi, oui, c'est important. Aujourd'hui, si on analyse Real Madrid, c'est une belle équipe. Hein. Mm-hmm. Mais Karim, il est dans les nuages avec Vinicius Junior. Mais si on fait une comparaison Madrid d'aujourd'hui comme 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, ah bah, avant, il avait plus de qualité qu'aujourd'hui.
Oui, oui, c'est vrai.
Mais c'est le maillot, ça pèse.
On va en parler un petit peu, on est obligé de parler de lui. Parce qu'il est partout en ce moment. Donc, je n'aime pas parler des autres dans mes interviews, mais je suis obligé d'en parler un petit peu. Parce que toi, tu as eu le privilège de le voir arriver et de le voir partir. Est-ce que ça, ce niveau d'extraterrestre, au-delà du niveau technique, parce qu'on a très vite su qu'il allait être au-dessus de la moyenne, on le savait. Mais cette mentalité-là, que moi, même quand il arrive au Real Madrid et quand il a évolué au Real Madrid, je ne l'ai pas vu, pas à ce point. Est-ce que vous sentiez qu'il avait une mentalité au-dessus de la moyenne, plus que la qualité technique?
Tout de suite.
À quoi?
Son contrôle, sa prise d'info. Devant le but, c'était un tueur déjà de jeune. Moi, je peux dire parce que moi, j'étais à son marquage à chaque fois. À l'entraînement, sa prise d'info, c'était la différence des autres. Sa santé tout de suite.
Et c'était déjà un tueur comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit 1000 caméras sur lui, sur sa façon de parler avec ses coéquipiers, son aura, son statut de capitaine. Alors évidemment, il était tout jeune à l'OL, donc il n'avait pas ce statut-là, cette légitimité pour parler aux anciens. Ouais, ouais. Mais vous sentiez déjà qu'il était différent, même dans son approche des matchs et son approche du jeu?
Oui, tu as raison, pas comme aujourd'hui. Mais il avait sa manière de travailler. Il était plus discret. Mais oui, il avait déjà ça. Lui. Après, il était bien reçu par le vestiaire, il était très ami avec Eric Abidal, voilà. Mais il a un point qui c'était très important aussi, c'est qu'il y avait lui et Atem Ben Arfa.
Oui.
Les deux génies à l'époque. Les talents énormes. Et pour moi, Atem Ben Arfa avait plus de talent qu'Karim. Mm-hmm. Sauf qu'Karim était plus intelligent qu'Atem.
Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Bon, reviens à toi, parce qu'on n'est pas là pour parler des autres, on est là pour parler de toi. On a parlé de cette saison 2007-2008, où c'est compliqué du coup avec Alain Perrin, mais toi, il y a ta blessure, il faut que tu reviennes.
Ouais.
Donc, parle-moi un peu de cette période de blessure pour toi, parce que c'est la plus grosse, et j'ai regardé l'historique hein, de blessure, Chris, sur Transfermarkt. Je vais pas te mentir, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une blessure et elle est importante parce que tu rates beaucoup et c'est éprouvant. Donc, toi qui n'as pas l'habitude de cet aspect-là du foot, comment tu vis cette période-là?
C'est très compliqué. Je n'imaginais jamais avoir une blessure aussi grave comme la rupture de mon ligament. Mmh. Et j'ai eu tellement mal. Et après, ça se passe beaucoup de choses dans la tête. Il y a un film qui passe... Je vais arrêter ma carrière, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que bon, je ne sentais plus mon genou. Donc, il y a des gens qui pètent le croisé comme ça, et ils jouent des fois ils tombent, ils ne sentent rien.
Ouais.
Mais moi, j'ai senti vraiment une douleur énorme. Mmh. Énorme. Et c'était le meilleur moment de ma carrière. Plus expérimenté, je commence à prendre de pouvoir, je connaissais très bien le championnat français, l'Europe. Voilà, j'étais déjà adapté, j'étais, entre guillemets, confirmé. Et à ce moment, ah ben là, c'était la fin du monde pour moi. Et moi, j'avais un espoir quand même, hein, avant de faire l'examen. Je dis non, c'est pas le croisé, mais oui, c'était le croisé.
Tu me dis c'est la fin du monde, mais je connais la fin de l'histoire. Tu reviens et tu répètes tout. Donc, qu'est-ce qui fait que tu tiens pendant cette période-là? Il y a une personne, c'est une mentalité, c'est quoi?
c'est ma famille. C'est pour ça que j'ai choisi de rentrer au Brésil.
D'accord.
J'ai décidé avec le président Jean-Michel Aulas, avec le coach Alain Perrin à l'époque. Mm-hmm. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord que je rentre au Brésil pour me faire payer là-bas et faire ma rééducation là-bas. Mais à l'époque, j'ai dit, OK, j'assume. Donc, je n'ai pas besoin que vous payiez quoi que ce soit. Moi, je vais, j'assume. Mais je vous rentre, je vous fais l'opération avec mon médecin. Je ne manquais pas de respect par rapport aux médecins ici en France, mm-hmm. à l'époque de Lyon. Mais je voulais faire au Brésil et de rester à côté de ma famille. Et ça, ça m'a aidé parce que les trois premiers mois au Brésil, je ne pouvais pas faire les choses tout seul. Ma femme, elle était toujours à côté de moi. Toujours à côté de moi et elle était enceinte en plus.
En plus.
En plus. Et moi, j'étais insupportable parce que je voulais revenir, je voulais travailler, je voulais faire les choses. Je travaillais trois fois par jour, le matin, l'après-midi, le soir. Donc, j'avais un coach, un prépa privé pour s'occuper de moi. J'étais à Corinthians pour faire la rééducation. Donc, j'ai bossé. Non, je vais revenir. Et à ce moment, j'étais insupportable. Mais bon, ma femme, elle a compris. Mes amis, mes parents, ils ont compris aussi. Et je pense que même le président Jean-Michel Aulas à l'époque, il avait compris que j'avais besoin de ça.
Chapeau à madame.
Ah oui, wow. Oui, là, il n'a pas eu le divorce. Donc...
Bon, on a dit cette saison-là, elle est particulière. C'est le dernier titre de champion de France de l'OL. Tu m'as dit, vous sentiez qu'il y avait une page qui se tournait. La vraie page tournée, et là, on va arriver dans les moments qui piquent aussi, c'est l'arrivée de Claude Puel. Ouais. Alors, j'ai fait mon travail de recherche et j'ai vu que ça ne s'était pas toujours très bien passé avec le coach. Avant que tu découvres ce qui n'allait pas, raconte-moi comment son arrivée, lui avec des méthodes particulières, lui avec un statut différent des autres coachs qui ont été à Lyon sur ta période. Et lui, il était plus connu pour sa capacité à emmener des jeunes loin. Là, il avait un groupe qui était complètement différent. Comment se passe son arrivée, les premières semaines ?
Je pense que ça se passait super bien. Il a changé des choses au niveau de vestiaire, des chaussures. Il avait un local chaussures quand on rentre sur... Parce qu'avant, à Gerland, on avait un vestiaire. Après l'entraînement, on rentrait en chaussures. Donc, des fois, le vestiaire était sale, etc. Bon, il change ça. Après, même quand on arrive le matin, quand on arrivait le matin pour s'échanger, il demandait de laisser les chaussures à la porte. Ben, il avait une salle, hein. Et de se promener en claquette dans le vestiaire. C'était une méthode, une méthode particulière. Après, Claude Puel, il a donné beaucoup d'attention à la formation à l'époque. Mm-hmm. Sauf que notre équipe, comme tu as bien dit, il avait des joueurs expérimentés. Il avait des joueurs champions du monde. Mm-hmm. Donc, la gestion, c'est différent. Mm-hmm. d'un jeune. Et je pense que c'est là qu'il a eu du mal de vouloir changer d'un coup. Ouais. Parce qu'on perd plusieurs cadres. Parce que déjà, les cadres, ils ne sentaient pas très bien avec beaucoup de changements. Claude Puel, il essaie de mettre sa méthode. Mais pour moi, il va trop vite dans le changement. Et on n'était pas adapté à ça. Une équipe qui vient gagner 7 fois de suite, tu vas changer la méthode comme ça d'un coup. Non, il avait déjà une histoire dans le club. Il avait une manière de travailler dans le club. Mm-hmm. Les changements de méthode, ça fait mal aux joueurs, ça fait mal au club. Par exemple, c'est simple, le coach, il s'entraînait avec nous. Et les joueurs se posaient la question, comment le coach il va choisir les 11 qui vont débuter s'il ne peut pas regarder parce qu'il s'entraîne avec nous.
Ah oui, je comprends. D'accord.
C'est des choses simples, mais... qui ça crée des situations différentes au vestiaire.
Et il n'y a pas une discussion qui se crée. Est-ce qu'il y a, parce que, comme tu dis, vous êtes des joueurs aguerris, expérimentés, c'est un coach et d'un certain âge quand même. Ça n'a pas marché, les échanges, il n'y en avait pas, ou qu'est-ce qui se passait?
On a essayé. J'ai essayé. J'étais le capitaine. À un moment donné, c'était Govou, capitaine. On échangeait dans le vestiaire. Des fois, on échangeait avec le coach, mais voilà, il n'y avait pas de changement. Ouais. Par contre, l'équipe a toujours travaillé. Mm-hmm. Malheureusement, on n'a rien gagné avec Claude. On a joué une demi-finale de Coupe d'Europe. La première année, par exemple, on était bien, on était devant, on avait je ne sais pas combien de points d'avance, et à la fin, on perd. Parce que dans la continuité, on n'a pas su garder le rythme.
Mais ça, c'est lié à sa méthode, tu crois ? Aujourd'hui, avec le recul ?
Je pense que ça a beaucoup joué.
Ouais. On a parlé de la saison d'avant avec Alain Perrin. On sent déjà que vous êtes en transition. Tu sais, il y a moins d'avance sur le deuxième. Il y a la concurrence aussi. On parlait du niveau de la Ligue 1. On sent que le niveau du reste de la Ligue 1 commence à monter. La solidité, la domination lyonnaise, elle est moins importante de votre côté, mais il y a aussi le reste qui grandit. Est-ce que lui, il n'est pas aussi celui qui arrive au mauvais moment, au-delà de la méthode ? Je ne remets pas du tout en question ce que tu me dis, mais est-ce qu'il n'est pas aussi celui qui arrive au moment où cette domination elle prend fin déjà naturellement ?
Oui, il arrive au moment de la transition. Oui,
parce que vous faites troisième.
Ouais.
On voit ce qui se passe, on va en parler, mais on voit ce qui se passe aujourd'hui à l'OL où c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. On est loin de ça. Donc, il y a aussi une logique un petit peu, tu ne trouves pas ? Toi, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu vois qu'il y avait une logique de résultat ?
Oui, on avait une belle équipe, on était des bosseurs. On n'a jamais lâché le coach, même s'il était critiqué à un moment donné par les supporters, par des gens de club. Mm-hmm. Mais on était toujours présents.
D'accord.
On s'est battu pour nous et pour le club. Donc après, il avait les décisions. C'est ça qu'on discutait dans le vestiaire. Les gars, qui joue pas, mais par contre, il faut qu'on reste au nid. Après, c'est le coach qui décide. Il peut choisir que 11. Donc, on va accepter. Et par contre, qui joue, il faut tout donner. Il faut tout donner. On n'a pas réussi à gagner comme les années précédentes. Mais les joueurs, franchement, on n'a jamais lâché. On n'a jamais lâché, comme c'était dit à la presse, oui, qu'à un moment donné, les joueurs ont lâché. Non, on finit 12e, 3e, on joue en demi-finale de Coupe d'Europe. On était présents quand même.
Est-ce que dans un club aussi, certes, gros, important, mais on a toujours cette idée de famille lyonnaise, tu sais ? On réclamait aussi des coachs qui étaient lyonnais, on réclamait qu'il y ait un certain socle lyonnais, du cru lyonnais dans l'effectif notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, quand tu revois cette partie-là de ta carrière et ce moment-là de ton passage à Lyon, tu aurais aimé que le club prenne une décision dans un sens ou dans l'autre ? C'est-à-dire dire, écoutez les gars, on vous a mis Claude Puel, c'est Claude Puel, ceux qui ne sont pas contents, la porte est ouverte. Ou s'il y a un groupe qui a tant apporté dans l'histoire de l'OL, qui a tant gagné et qui est aussi soudé, on doit l'écouter et dire, coach, c'est fini. Est-ce qu'une décision n'aurait pas dû être prise dans un sens ou dans l'autre ?
Mais le message, il était envoyé. Hein.
De votre côté ?
Non, de tous les côtés.
D'accord.
Parce que Claude Puel, il signe 4 ans, un contrat de 4 ans.
Ouais, ouais.
Donc, on a vu tout de suite certains joueurs qui sont partis, que ce soit la première année, que ce soit la deuxième année. Donc, il arrive avec carte blanche. Le président l'a donné confiance parce qu'on avait besoin. Il vient parce qu'il a fait des belles saisons à Lille. Il a restructuré le club. C'est pour ça qu'il était là. Il est venu à Lyon.
Ouais.
Donc, il arrive avec un contrat de 4 ans. C'est justement, c'est un travail à long terme.
Ouais.
Donc, il commence à mettre sa méthode. Il a des joueurs qui sont partis, qui n'ont pas accepté. Fabio Grosso, on va dire les noms. Junior, la deuxième année.
Parce que donc, pour que quelqu'un comme Juni s'en aille, c'est quand même gros. Quand même, on parle d'une identité à Lyon. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est une statue de Juni à Lyon.
Oui. Juni, il a besoin d'être accompagné. Il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Il a besoin des câlins.
Ouais.
Il a besoin de la communication. Tous les coachs qui ont arrivé, c'était comme ça. Junior, c'était notre meilleur joueur. C'était le joueur qui décidait. Des fois, il avait des matchs 0-0. Allez, coup franc, bim, 1-0, c'est fini. Donc, peut-être que ça manquait ça pour Junior la première année. Et quand j'entends, à l'époque, Junior, non, qu'est-ce qu'on va faire avec Junior ? Junior, déjà, il est un peu vieux. Il ne peut pas jouer tous les matchs. Fais-lui jouer tous les matchs à domicile. Il va nous faire gagner tous les matchs à domicile. Des fois, il va se déplacer à Saint-Etienne, que c'est à côté. Il va se déplacer, je ne sais pas où, que c'est à côté. Juni n'a pas besoin de faire tous les matchs. Ce n'est pas parce qu'il est vieux, il arrive à 35. Non, il a ses qualités. Après, c'est un joueur, c'était un joueur important. Il fallait juste faire la gestion et s'adapter par rapport à ça.
On en a cité qui partent, mais toi, tu pars pas. Pourquoi tu pars pas? J'ai dit que j'allais t'emmerder un peu.
Ah ouais.
Pourquoi tu pars pas, toi? Tu n'es pas d'accord avec les méthodes. Tu as vu que ça ne marchait pas. Tu fais partie de la grande ère lyonnaise qui a tout gagné. Tu es un joueur qui, à ce moment-là, tu n'es pas vieux, mais tu n'es pas tout jeune. Donc, tu as une cote sur le marché. Pourquoi tu pars pas?
Déjà, c'est le choix de ma famille.
Ouais.
Mes deux filles sont nées à Lyon. J'avais un contrat. Et moi, je voulais aller jusqu'au bout avec mon contrat. Je venais de prolonger. Donc, j'avais un contrat encore de 3 ans.
Oui.
Il y a ces moments, je n'avais pas de proposition non plus pour partir à droite à gauche. Et moi, je me sentais super bien à Lyon. Et je ne voulais pas lâcher le bateau. Je ne dis pas que Juninho il a lâché, que Fabio Rosso a lâché. Ce n'est pas ça. Mais moi, j'étais bien. Je voulais encore vivre les émotions avec Lyon.
Le fait que tu ne pars pas, ça fait que tu vis un match d'anthologie. Et c'est pareil, je ne peux pas avoir un monument lyonnais sans parler de ce match complètement fou, qui est, je pense, dans le panthéon des meilleurs matchs de la Ligue 1, de l'histoire de la Ligue 1, c'est le fameux 5-5 contre l'Olympique de Marseille. Alors moi, je dis qu'il est dans le panthéon parce que je ne suis ni supporter de l'OM, ni supporter de l'OL, et que j'ai vu un match de dingue. Mais est-ce que c'est le match le plus fou, dans tous les sens du terme, que tu as vécu dans toute ta carrière?
Fou, oui.
Mais ce n'est pas le meilleur.
Ah non, ce n'est pas le meilleur parce que j'ai pris 5 buts.
Ouais.
Donc,
ouais.
Pour moi, un défenseur, une défense qui prenne 5 buts, c'est horrible. Mais fou, oui. L'histoire de match, tout ça, des fois, il avait 4-2 pour Marseille. Les supporters commençaient à partir. Ah oui, c'était impressionnant. Ce match-là, c'était impressionnant.
Est-ce que j'ai encore vu le résumé avant de t'avoir en interview là? Je me suis refait le résumé parce que je me suis dit, tu sais, il y avait la voix de Grégoire Margoton, il y avait un contexte, il y a Gerland qui est en folie, il y avait tout dans ce match. Le dernier but de Marseille, même moi qui suis neutre, quand je regarde encore le résumé, je me dis, ils n'ont pas le droit de le prendre celui-là. Est-ce qu'il t'a hanté ce but de la fin là, ou qui est un peu tordu, bizarre, un cafouillage, on ne sait même pas qui marque vraiment. Est-ce qu'il vous a hanté ce but? Quand oui. Bastos y marque, on pense que c'est réglé. Hein.
C'est réglé, mais nous aussi. On s'est dit, les gars, c'est fini. Allez, on défend. Il ne reste pas beaucoup de temps à jouer. On ne prend pas. On dégage le ballon. Là, c'est fini. C'était un truc qui s'est passé. C'était écrit déjà.
Ouais.
C'était écrit. Donc, on ne pouvait pas éviter. Donc, c'était le match pour rentrer dans l'histoire.
Vous êtes fait tuer en rentrant au vestiaire ou pas?
Non. On se fait tuer nous-mêmes. Déjà, ce n'était pas le moment de coach parler, que ce soit le coach ou le président, mais chacun s'est libéré un peu. On était vraiment énervés. Mm-hmm. Mais déjà, dans le visage, d'insulter.
Entre vous?
Entre nous, oui, entre nous.
Bon, on a parlé avec Claude Puel. Merci de l'avoir fait avec autant de franchise et de bienveillance, parce que c'est la bienveillance, c'est le maître mot de ce show-là, c'était hyper important et pourtant, tu n'as pas évité les questions. Pour remettre les choses dans leur contexte, tu as quand même fait 45, 50 et 27 matchs sous ses ordres. C'est qu'il y avait quand même une relation, du respect et de l'implication des deux côtés, donc c'est beau. Après ça, il y a, et c'est là aussi une nouvelle ère, Rémi Garde. Et Rémi Garde, j'ai adoré Rémi Garde à l'OL. J'ai adoré. Ouais. Dans les interviews que je te vois dire, que je te vois faire à travers ta carrière, quand tu parles de Claude Puel, tu dis qu'il ne connaissait pas assez l'univers et l'atmosphère lyonnaise. Lui, Rémi Garde, on est dedans. On a quelqu'un du club, du CRU, qui connaît parfaitement le club. Vous faites quatrième. Vu ce que vous avez vécu avant et ce qu'a enclenché l'Olympique lyonnais, c'est loin d'être une énorme déception parce qu'il y a un gros virage qui est pris par le club. Déjà, toi, première question, comment tu vis ce virage-là?
C'était encore une année de transition. Et, Rémi Garde, il connaissait très bien le club.
Mm.
Il était entraîneur des jeunes. Il était directeur sportif de club. Directeur de centre de formation, pardon. Mm-hmm. Il devient entraîneur. Il n'avait pas d'expérience d'être entraîneur de haut niveau. Mais il fait les choses. Déjà, parce qu'il avait un bon staff. Il avait ses amis, Robert Duverne, Batz, des gens qui l'aidaient à progresser. Et à ces moments, l'équipe, oui, on n'a pas réussi à qualifier l'équipe pour la Coupe d'Europe. mais ça jouait bien parce que les autres équipes se renforçaient aussi.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Pas tout seul non plus, il y a du monde aussi en Ligue 1.
Non, oui, c'est ça. Et c'était, à chaque année, c'était plus difficile pour nous.
Mais est-ce que toi, tu retrouves du plaisir? Je ne dis pas que tu as perdu le plaisir du foot sous Claude Puel, mais est-ce que tu retrouves le plaisir de la maison lyonnaise que tu avais avant Claude Puel?
Oui, parce qu'avec Rémi Garde, j'avais de la communication déjà avant, je le connaissais, il était adjoint, donc on était toujours ensemble. Donc, j'étais plus à l'aise que Claude. Claude Puel, il arrive, je ne le connaissais pas. C'est complètement différent, hein. Claude Puel, c'était plus fermé, plus réservé, plus dans son travail, dans son truc. Rémi Garde, c'était plus ouvert. La carrière, c'était pas pareil. Claude Puel, il avait l'expérience déjà d'entraîner au niveau. Rémi Garde, c'était la première. Donc, on voulait tous l'aider aussi parce qu'on vient de sortir de 3 ans avec Claude Puel. Il fallait changer. Il fallait changer la manière de travailler. Donc, Rémi Garde, il a réussi à changer un peu ça.
Comment tu te sens, toi, physiquement, à ce moment-là? Parce que tu as quand même encore 3 années qui sont passées. On commence à entendre des petits bruits de couloir. Toi, tu te sens comment à ce moment-là?
Je me sentais bien, mais c'était l'année que j'ai eu beaucoup de blessures. Mm-hmm. Le moment de changement arrivait. Même si on a joué 2 finales de coupe, on a joué la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Mm-hmm. Déjà, la Coupe de la Ligue, j'étais sur le banc parce que moi, je pouvais pas débuter parce que je venais d'une blessure. Et la Coupe de France, on gagne contre Kivi.
Donc, le dernier titre de l'OL, d'ailleurs.
Ouais. Donc, par rapport à mes blessures, oui, je savais qu'à un moment donné, le club, j'avais encore un an de contrat. Mmh. En connaissant l'expérience, tout ça, je savais qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter.
Ma dernière question qui pique. Je te promets, il n'y en a plus après de questions qui piquent. La dernière question qui pique, c'est qu'il y a une déclaration de Jean-Michel Aulas qui, à l'époque, dit qu'il va se débarrasser des dinosaures du vestiaire.
Ouais.
Que certains, et je reprends ses propos, certains ont pourri l'ambiance du vestiaire.
Ouais.
Et qu'il était temps de passer à autre chose.
Ouais.
Quand on est un monument de l'OL, quand on a porté l'OL comme tu l'as porté, quand notre président dit que tu as pourri le vestiaire alors qu'il y avait la place pour gagner le titre, c'est beaucoup, c'est lourd. On connaît Jean-Michel Aulas, dans les bons comme dans les mauvais moments. Toi, tu prends comment cette déclaration?
Je prends mal. Bien sûr, je prends mal. Parce que j'avais une relation avec le président, avec beaucoup de respect. Et je sais, parce qu'il a cité mon nom. Mm. Quand j'ai su de cette déclaration, j'étais en stage avec Olympique Lyonnais. On était à Tine. Il y a un journaliste m'appelle en disant, t'es prêt? J'ai dit, prêt pourquoi? Il a un article qui va sortir et ça va chauffer. J'ai dit, écoute, non, tu peux pas me dire. Il m'a dit, non, je peux t'envoyer, mais ça va être vers 3h, 4h du matin. Mmh. J'ai dit, OK. Et là, je ne dors pas. Donc, il m'envoie. J'ai lu. Oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que tout ce que j'ai vécu avec Olympique Lyonnais, je n'ai jamais triché. Mmh. Jamais triché. Et je pense que je ne méritais pas ces propos. C'était plus facile d'aller à la presse, de parler comme ça, de m'appeler dans son bureau et de me dire la vérité. Voilà, Chris, malheureusement, on n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. On ne peut pas te garder. Où tu trouves un club, où on négocie le contrat. Ce n'est pas la question de l'argent pour moi. On négocie le contrat. Et peut-être que l'histoire, ça va se finir comme ça, avec comment commencer avec du respect, il va finir avec du respect. Pour ne pas mentir, j'étais très déçu par rapport aux propos. Dinosaure et Pharaon, c'est quand même fort par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble. C'était un président, je l'admire, hein, je l'admire. C'est un président qui m'a invité chez lui avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. J'attendais jamais des propos de président comme ça. J'étais vraiment déçu de ces propos parce que je pense qu'il pouvait m'appeler dans son bureau et il me dit les choses. Et moi, quand il dit que j'ai pourri le vestiaire, ouais, qui j'ai empêché j'empêchais la progression de Lovren. Ah non, j'empêchais personne. J'ai bloqué personne.
Parce qu'encore une fois, tu le soulignes, vous avez des rapports particuliers de proximité, il y a du respect, il y a une histoire commune. Tu es quelqu'un aux yeux des supporters aussi, ce qui prend un risque hein, vis-à-vis de ses supporters à ce moment-là. Il y a un antécédent, il y a un truc pour qu'ils te visent, toi.
Je ne sais pas, je n'ai jamais su. Tu
n'as jamais su jamais Même su. Après, vous n'en avez pas reparlé?
Non, 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 non. On s'est vu, on a discuté de la vie comme ça, ouais. Mais je n'ai pas voulu discuter par rapport à ses propos. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président. Je pense que pour moi, c'est un des meilleurs présidents que j'ai eu dans ma carrière. Non, peut-être c'est la manière de me faire partie du club, parce que comme le club ne jouait pas la Coupe d'Europe, il allait commencer une transition que ça marchait super bien avec les jeunes, avec Umtiti, Gonalon, avec Lacazette, Tolisso. Mais encore une fois, c'est la manière de faire les choses. Voilà, tout ce que j'avais dit au président à l'époque, je l'appelais ou je parlais directement, tête à tête. J'ai jamais mis des choses à la presse, surtout pour respect à l'institution olympique qu'il en est.
Rapidement. Ouf, j'ai une question que j'ai oublié de te poser.
Ça, c'est la tactique. Hein?
Parce que là, j'allais te parler de l'après-OL, mais j'ai une question avant de boucler la page OL. Robinho. Ah. Robinho, vous avez affronté le Real Madrid en Ligue des Champions, c'était presque devenu le rendez-vous classique, tu sais, presque tous les ans, on avait droit à notre affiche. Tu as connu, tu as 17 sélections avec le Brésil, 17.
Attends, j'ai 41 et demi, pour ne pas dire le chiffre.
D'accord.
Mais comme titulaire, j'ai 17 D'accord. matchs comme titulaire. Okay.
Tu as 17 matchs, on va le refaire, tu as 17 matchs comme titulaire et tu as 41 sélections et demi, je vais le dire le et demi.
Ouais.
Je veux dire, parce que c'est important. Le Brésil, les sélections, c'est hyper important.
Et le demi aussi, pour ne pas dire 40.
Non, on dit et demi.
Ouais.
On dit et demi, c'est important. Tu me le dis, je te le dis. Donc, tu es quelqu'un quand même. Tu es connu au Brésil. Tu n'es pas quelqu'un qui sort de nulle part. Et il y a une anecdote de Robinho qui aurait dit à Juninho qu'il ne connaissait pas les défenseurs de l'OL. Alors, explique-moi, est-ce que c'est de la provo? Est-ce que c'est juste une question d'intimidation avant un match? Est-ce que c'est du jeu d'acteur? Il y a tellement de choses dans le foot aujourd'hui.
C'était de la provocation. Parce D'accord. que Robinho, il m'y connaissait. Il connaissait Claudio. J'étais en équipe nationale avec Robinho. On a joué contre un, l'autre au Brésil. On a joué pratiquement une finale de championnat brésilien. Quand il jouait à Santos. Et moi, je jouais à Cruzeiro. Non. On se connaissait, oui, bien sûr. Mais pour donner plus d'émotion, d'agressivité, bah, Juninho, il rentre de l'équipe nationale. Et là, il dit, voilà, putain, Robinho, il est en train de chauffer tout le monde. C'est le match de leur vie. Hein. Donc, il m'a demandé qui c'était les défenseurs d'Olympique Lyonnais. Donc, voilà. Et après, Juninho, il a rajouté aussi. Mais c'était marrant.
Voilà. C'était marrant.
C'était la provocation, tout ça. Mais c'est vrai que ça nous a donné plus de motivation, plus envie, surtout à moi et Claudio. Mais déjà, il a la présentation des équipes et à un moment donné, avant, c'est les mains. Ouais. Ah bah déjà, on s'est les mains de Robinho assez fort. En disant, entre nous, c'est soit t'es mort, c'est ça, tu vas voir. c'est vrai, le premier ballon, premier duel, ah ben, je ne voyais que Robinho. Et là, je fais une faute, sauf que je n'ai pas pensé, parce qu'il avait David Beckham, l'autre côté.
Oui.
Donc, je fais la faute, même pas 25 mètres dans la cage. Et Greg, il me dit... Qu'est-ce que tu fais?
Ah, le foot, c'est incroyable. Bon, la sélection, dis-moi, parce que la sélection, finalement, quand nous, on te voyait tous les week-ends, on avait un monument devant nous. Tu étais un monument de la Ligue 1, tu as marqué l'histoire de la Ligue 1. Et quand on voit le rapport à sélection, alors 41,5, c'est beaucoup. Mais on a l'impression que tu aurais pu avoir plus.
Ouais.
Est-ce que toi, tu as ce regard-là aussi sur ton histoire avec la sélection?
Je regrette, oui. Je regrette certains passages en équipe nationale. Je pense que j'étais jamais un titulaire en équipe nationale. J'ai eu mes matchs que ce soit Scolari, que ce soit Luxemburgo, que ce soit Zagallo, Parreira, que ce soit Dunga. J'ai vécu des bons moments. J'ai joué 3 Copa América. J'étais à la Coupe du Monde. J'ai failli être à la Coupe du Monde 2002. Malheureusement, voilà, je n'étais pas dedans. En 2006, voilà, j'étais dedans. Je n'ai pas joué. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Bah, plaisir. C'était le rêve. Je crois que c'est le rêve de tous les joueurs de disputer une Coupe du Monde. Mais oui, je regrette. Je regrette certains passages en équipe nationale. De m'affirmer un peu plus.
Ouais.
Je suis content, mais j'aurais pu faire beaucoup.
Tu penses que c'était possible? C'était pas inaccessible.
Ah oui, c'était possible. C'était possible.
D'accord. Ouais. Bon, ma dernière question, Chris. Ma dernière question avant de te libérer.
C'est pas un piège?
Non, promis, c'est pas un piège. Promis, c'est pas un piège. Il y a ce départ de l'OL, du coup, dans les conditions qu'on a abordées. Il y a Galatasaray.
Oui.
Alors, d'une, est-ce que tu as d'autres options? Et de deux, l'aventure, elle est assez courte.
Ouais.
Après, tu retournes au Brésil, mais comment tu vis cette histoire-là?
Au départ, c'était, je pensais qu'elle allait être magnifique.
Mm-hmm.
Parce que ça a commencé avec Tafarel, l'ancien gardien, qui me contacte, qu'ils avaient besoin d'un défenseur. Il y a un défenseur expérimenté qui jouait la Coupe d'Europe parce que c'est cette année-là, Galatasaray allait jouer la Coupe d'Europe.
Ouais.
Par rapport au départ d'Olympique Lyonnais, je parle avec ma femme, avec ma famille. On dit, allez, on y va. C'était très dur mais de quitter Lyon, mais on y va. Donc, j'arrive à Galatasaray. Tout se passe bien. Un club structuré avec un stade magnifique, des supporters passionné, je me sentais au Brésil. Des fous, mais il avait des supporters partout, que ce soit un match à domicile, que ce soit un match à l'extérieur.
Ouais.
Impressionnant, j'adorais l'ambiance. Après, au niveau sportif, je commence à jouer. Il s'arrive le premier match de Coupe d'Europe contre Manchester United. Je suis sur le banc. OK, je laisse passer. Je continue le travail.
Mm-hmm.
Le match d'après, au championnat turc, je joue. Après, je joue. Deuxième match, Coupe d'Europe, sous le banc. Je me pose la question. Ouais, je suis venu pour jouer la Coupe d'Europe. Mm-hmm. En fait, je joue le championnat, mais je ne joue pas la Coupe d'Europe. C'est bizarre. J'appelle Tafarel. J'ai dit, Tafa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Chris, je peux pas te dire. Donc, j'ai dit, est-ce qu'on peut voir le coach? Oui, on peut voir le coach. Donc, je vais voir le coach. Bon, le coach, il me donne une explication assez...
bidon.
Bizarre,
que
j'ai pas compris. Et enfin, voilà, j'ai pas resté longtemps. J'ai resté 5 mois.
D'accord.
J'ai resté 5 mois et après, je pars au Brésil.
Ok. Bon, Chris, merci.
Bah, écoute, merci pour le moment partagé, c'est bien.
Ça va, t'as passé un bon moment, c'était bien.
Ah ouais, super.
C'est cool, je suis content. Bon, écoute, on va pas mentir aux gens, on a mis du temps à se trouver un moment pour être tous les deux. On a réussi. Et je me suis régalé perso, donc merci d'avoir joué le jeu, c'était top. Prends soin de toi, à très bientôt et puis...
C'est gentil, merci.
Merci Chris, prends soin de toi, ciao.
Allez, ciao.